Chapitre 7. 5 ans plus tard. Au loin, Luoji et sa famille pouvaient voir l'antenne à ondes gravitationnelles, mais ils durent rouler encore une bonne demi-heure avant d'arriver à son pied. Ce ne fut qu'à ce moment-là qu'ils prirent vraiment conscience de son immensité. L'antenne était un cylindre horizontal, long d'1,5 km et de 50 mètres de diamètre. Sa structure était suspendue à 2 mètres au-dessus du sol. Sa surface était réfléchissante, la moitié reflétait le ciel et l'autre la plaine de la Chine du Nord. Elle évoquait plusieurs choses. Le pendule géant du monde des trois corps, un intellectron déployé en faible dimension, ou bien encore la gouttelette. Cet objet miroitant reflétait un concept du monde trisolarien que l'humanité avait encore jusque-là du mal à comprendre. Comme le disait un vieil adage trisolarien, rendre fidèlement compte de l'univers pour pouvoir s'y cacher est le seul chemin vers l'éternité. L'antenne était encerclée par une large prairie verdoyante qui formait comme une petite oasis dans le désert du nord de la Chine. Cette prairie n'avait pas été créée artificiellement. Après la construction de l'antenne, celle-ci s'était mise à émettre des ondes continues et non modulées qui n'était pas très différente des ondes gravitationnelles émises par les explosions de supernova, les étoiles à neutrons ou les trous noirs. Mais la densité de ces faisceaux avait sur l'atmosphère un effet étrange. La vapeur d'eau se concentrait au niveau du sommet de l'antenne et il pleuvait souvent dans ces parages. Parfois, la pluie ne tombait que dans un rayon de 3 ou 4 km autour d'elle, et un petit nuage circulaire se suspendait dans les airs comme une soucoupe volante, laissant voir à travers l'averse les rayons scintillants du soleil. Par conséquent, la végétation sauvage était particulièrement luxuriante dans cette zone. Aujourd'hui, Luoji et sa famille n'eurent pas l'occasion d'assister à ce genre de miracle. À la place, ils ne virent que quelques nuages blancs rassemblés dans le ciel au-dessus de l'antenne qui disparaissaient chaque fois qu'ils étaient soufflés par un faisceau d'ondes gravitationnelles. De nouveaux nuages se formaient néanmoins sans cesse, si bien que cette petite parcelle circulaire du ciel avait l'air d'un trou de ver qui menait vers un autre univers nébuleux. Devant ce spectacle, sa fille déclara qu'on aurait dit les cheveux blancs d'un vieillard géant. Luoji et Chuang Yan marchèrent dans les pas de leur enfant qui courait sur la prairie, et ils arrivèrent jusque sous l'antenne. Les deux premiers systèmes d'ondes gravitationnelles avaient été bâtis en Europe et en Amérique du Nord. Leurs antennes utilisaient une sustentation magnétique qui leur permettait d'être suspendues quelques centimètres au-dessus de la base. Mais ici, l'antenne utilisait l'antigravité et pouvait, si on le voulait, s'élever dans l'espace. Tous trois levèrent les yeux vers l'énorme cylindre qui s'étendait au-dessus de leur tête. C'était comme un ciel aux extrémités galbées. Son large rayon donnait une faible courbure à sa base et il ne se produisait donc aucune distorsion sur les reflets à sa surface. Le soleil du crépuscule brillait sous l'antenne et dans le reflet, Luoji vit les longs cheveux de Chuang Yan et sa jupe blanche flotter dans ses rayons dorés comme un ange veillant sur la terre. Il souleva sa fille pour la laisser toucher délicatement la surface lisse de l'antenne. Elle tenta de la pousser avec force dans une direction. « Est-ce que je peux la faire tourner ?»« Si tu la pousses suffisamment longtemps, elle tournera, » répondit Chuang Yan, puis elle demanda en souriant à Luoji. « N'est-ce pas ?» Il hocha la tête. « Si tu la pousses suffisamment longtemps, tu pourras même faire bouger la terre. » Comme cela s'était passé d'innombrables fois dans le passé, leurs regards se croisèrent. C'était le prolongement de celui qu'ils avaient échangé 2 siècles plus tôt devant le sourire de la Joconde. Ils avaient découvert que le langage des yeux que Chuang Yan avait imaginé était maintenant devenu réalité, ou bien peut-être que les amoureux l'avaient toujours possédé. Quand ils se regardaient l'un l'autre, Une richesse de signification jaillissait de leurs yeux, tout comme les nuages blancs s'échappaient du puits nuageux créé par le faisceau d'ondes gravitationnelles, à jamais et sans fin. Mais ce n'était pas un langage de ce monde. Celui-ci bâtissait au contraire son monde propre qui, en échange, lui donnait sens. Et c'était seulement dans ce monde rose que les mots trouvaient leur référent. Dans ce monde, chacun était Dieu. Chacun avait le pouvoir de compter instantanément tous les grains de sable du désert et de s'en souvenir. Chacun avait le pouvoir d'enfiler des étoiles en un collier de cristal et l'accrocher autour du cou de l'être aimé.
C'est donc ça, l'amour ?
Une rangée de mots s'afficha sur un intellectron qui s'était soudain déployé en basse dimension à côté d'eux. Cette sphère miroitante ressemblait à une goutte tombée depuis quelque endroit du cylindre au-dessus de leur tête et qui aurait fondu. Luoji ne connaissait pas beaucoup de trisolariens et il ignorait qui s'adressait maintenant à lui. Il ne savait pas non plus si celui-ci était sur Trisolaris ou dans la flotte qui s'éloignait chaque jour un peu plus du système solaire.
« Sans doute, oui, »
sourit Luoji en hochant la tête.
« Docteur Luoji, je suis venu pour protester.
Pourquoi ?»«
Parce que hier soir, pendant votre conférence, vous avez soutenu que si l'humanité n'avait compris le principe de la forêt sombre de l'univers que très tardivement, ce n'était pas en raison d'un stade trop précoce de sa civilisation ou d'un manque de connaissances sur l'univers, mais parce que l'humanité avait l'amour. »
N'est-ce pas vrai?
C'est vrai, même si le sens du mot « amour » est un peu vague dans un contexte scientifique. Mais la phrase qui a suivi était inexacte. Vous avez dit que l'humanité était peut-être la seule espèce de l'univers à posséder l'amour, et que c'était précisément cette idée qui vous avait soutenu durant les périodes les plus difficiles de votre mission de colmateur.
Bien sûr, ce n'était qu'une façon de s'exprimer, quelque chose de pas très sérieux, une simple métaphore.
Au moins, je sais que Trisolaris aussi possède l'amour. Mais n'étant pas un sentiment propice à la survie de la civilisation, on le fauche dès ses premiers bourgeons, mais les graines sont tenaces et elles poussent encore chez certains individus.
Qui êtes-vous ?
Nous ne nous connaissons pas. Je suis le guetteur qui a transmis il y a 2 siècles et demi le message d'alerte à la Terre.
Mon Dieu, vous êtes encore vivant ? S'étonna Chuangyan.
Plus pour très longtemps. Je suis longtemps resté en état de déshydratation, mais après tant d'années, un corps déshydraté finit lui aussi par vieillir. Cependant, j'ai vu le futur que j'espérais voir, et j'en suis extrêmement heureux.
Veuillez accepter nos respects, dit Luoji.
Je voudrais simplement évoquer une chose avec vous. Peut-être que d'autres bourgeons d'amour existent ailleurs dans l'univers. Nous devons les encourager à pousser et à grandir, partout.
Cela mérite de prendre des risques.
Oui, cela mérite de prendre des risques.
Je rêve qu'un jour, un rayon de soleil suffisamment brillant puisse éclairer la forêt sombre. Le soleil se couchait. Seul son sommet saillait encore au-dessus des montagnes lointaines, comme une gemme incrustée sur les cimes. La petite était allée courir loin. Comme l'herbe de la prairie, elle baignait dans les rayons d'or du crépuscule.
Le soleil va bientôt se coucher? Votre fille n'a donc pas peur?
Bien sûr que non. Elle sait que demain, il se lèvera encore.